Mandrin. Deuxième partie, la trahison. Chapitre 1, une décision d'importance. « Ma chère enfant, ne pleurez pas ainsi, » ne cessait de répéter M. de Voltaire. « Il reviendra, vous dis-je. Mandrin n'a-t-il pas maintes fois prouvé qu'il était invulnérable ? Allons, soyez raisonnable. Ma servante Marton va vous conduire jusqu'à votre appartement. Demeurez-y en paix. Tâchez de vous endormir. » « Oui, vous avez raison, » reprenait Nicole. « Je dois être courageuse. » Et, tout en s'efforçant d'arrêter ses larmes, après avoir souhaité un affectueux et reconnaissant bonsoir à son hôte, elle suivit Marton, qui la conduisit d'un air plein de compassion jusqu'à sa chambre. C'était celle de la marquise de Montferrat que, dans la journée, Voltaire avait fait remettre en état pour ses hôtes. Lorsqu'elle en franchit le seuil, Nicole se sentit secouée par un long frisson. Elle se laissa tomber sur un fauteuil sans prononcer un mot. Marton s'approcha d'elle. « Madame, proposa-t-elle, voulez-vous que je vous aide à vous déshabiller ?»« Non, ma fille. » Marton n'insista pas et se retira. Alors Nicole donna libre cours à sa peine. De sombres pressentiments l'assaillaient, la persuadant de plus en plus que Mandrin ne reviendrait pas de cette expédition autant soudaine qu'imprévue. Et ce furent de nouvelles larmes, de nouveaux sanglots, plus déchirants encore. Soudain, il lui sembla qu'on avait légèrement heurté à sa porte. « Qui est là ? » demanda-t-elle d'une voix brisée. « Monsieur de Voltaire !» Nicole eut un tressaillement d'espoir. Elle n'était donc ni seule ni abandonnée. Un peu rassurée par la présence de son hôte, dont la bienveillance à son égard était si manifeste, elle s'en fut lui ouvrir. Voltaire, la prenant par la main, la reconduisit jusqu'au fauteuil et la força doucement à se rasseoir. « Ma pauvre enfant, » fit-il d'un ton ému, « je passais dans le vestibule et je vous ai entendu pleurer. Croyez que je suis désolé de vous voir tant de peine. Et moi, qui m'étais sottement persuadé que je vous avais consolé. Que diable ! Quand on épouse un homme tel que Mandrin, il faut s'attendre à tout et à bien d'autres choses encore. » « Oui, mais pas à cela !» s'exclamait ingénument Nicole. « Je le vois bien à présent, j'avais trop présumé de mes forces. Grisé par mon amour, je ne l'avais compris qu'éclairé par la grande et douce lumière d'un parfait bonheur. Je devine à présent quelles vont être mes transes, mes angoisses. Aurais-je le courage de les supporter ?» Voltaire la considéra avec une expression faite à la fois de compassion et de malice. Puis, après avoir réfléchi quelques instants, il reprit « Ne m'avez-vous pas dit que vous étiez la cousine de la marquise de Pompadour ?»« Oui, monsieur. Il me vient une idée, car cela vraiment m'afflige de vous voir ainsi désespéré. Supposez qu'au lieu de commander des contrebandiers, Mandrin est sous ses ordres des soldats. Qui sait s'il ne deviendrait pas un jour maréchal de France ? Nous en manquons plutôt en ce moment, et j'ai la conviction que Mandrin ne tarderait pas à récolter, avec les lauriers de la gloire, ce bâton de suprême commandement. « Je le crois moi aussi !» s'écria Nicole en un accent de naïve fierté. « Pourquoi ? » poursuivait Voltaire. « N'iriez-vous pas à Fontainebleau trouver votre cousine, la marquise de Pompadour ? Je la crois fort capable d'obtenir du roi non seulement la grâce de Mandrin, mais peut-être encore son brevet d'officier. Mais lui, accepterait-il ? Objecta Nicole. « Pourquoi pas ? Il est tellement attaché à son œuvre. Ne serait-ce pas pour lui le moyen non seulement de la continuer, mais de l'achever ? Je ne comprends pas bien, monsieur. Je vais tâcher de mieux m'expliquer, ma petite. Vous savez combien j'admire votre mari. Franchement, je ne pense pas que la guerre qu'il a déclarée aux fermiers généraux puisse aboutir à une victoire décisive, c'est-à-dire à l'écrasement et à la disparition de ces véritables sangsues gorgés du sang de la France. Certes, j'ai la conviction que Mandrin est de taille à les gêner, à les inquiéter, et même à les tenir longtemps en échec. Mais je doute que sa valeur et son intrépidité, qui en font une véritable force de la nature, soient suffisamment destructives pour abolir un privilège que ces gens sont décidés à défendre avec d'autant plus d'énergie qu'ils disposent de ressources formidables. Toute la police n'est-elle pas à leur disposition ? Demain, ce sera l'armée, et si je suis certain que Mandrin est de taille à échapper à ses adversaires, je n'en redoute pas moins, ne fût-ce que pour le succès de sa cause, l'issue d'une campagne qui ne peut être qu'un soulèvement magnifique, certes, mais momentané, et non point la puissante et fructueuse révolution dont le peuple de France attend son salut. Vivement impressionné par ce langage, dont l'éloquence reposait sur les apparences d'une logique irréfutable et d'un merveilleux bon sens, Nicole, qui avait cessé de pleurer, répliquait avec effusion. « Je ne saurais vous dire, monsieur, à quel point je vous suis reconnaissante de me parler ainsi. Vous venez de me rendre confiance. Mais encore un coup, je me demande avec angoisse si Mandrin consentira à renier ses idées, à trahir sa cause. » « Il n'est point question de cela, » protestait Voltaire. « Mandrin, au contraire, sûr de sa liberté et entouré de cette auréole de gloire qu'il saura promptement conquérir, n'en aura que les coudées plus franches pour continuer, sous une autre forme, l'œuvre de salut qu'il a entreprise. Devenu un grand militaire, c'est-à-dire un personnage important dans l'État, auxquels précisément font si grand défaut les hommes de bonne volonté et de beau caractère, il pourra reprendre en main l'exécution de ses desseins et parler cette fois non plus en révolté, mais en maître. « Ah, monsieur !» s'écriait Nicole. « Pourquoi Mandrin n'est-il pas ici ? Je suis sûr que s'il vous entendait, il finirait peut-être par se convaincre que vous avez raison. Mais, hélas, il est parti. Vous ne pouvez rien, et avant qu'il ne se soit décidé, le malheur peut s'abattre sur lui, et cette fois d'une façon irréparable. Vous doutez que Bourré d'Érigny doit être dans un état de colère indescriptible. Certes, il va donc mettre tout en œuvre pour se venger. C'est mon avis. L'important serait donc, avant tout, d'obtenir sa grâce. N'est-ce point le premier conseil que je vous ai donné ? « Mais l'obtiendrai-je ? Vous êtes en bon terme avec votre cousine. Excellent. Alors tout va bien. Mais si le roi refuse ? Louis XV a pour principe d'accorder à la marquise tout ce qu'elle lui demande. En ce cas, il ne reste plus qu'à partir. À la bonne heure. Je m'aperçois que vous n'êtes pas seulement une femme de cœur, mais aussi une personne de tête. Je veux sauver mon mari. » « Vous le sauverez !» Et Nicole, transfigurée par la volonté qui l'animait, s'écria « Monsieur de Voltaire, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour lui. Seulement, qu'y a-t-il ? Je pense à une chose. Si Mandrin revient ici avant que je ne sois parti, il m'empêchera certainement de me rendre à Paris. C'est certain. Alors, si je m'en allais tout de suite ?» Attendez au moins qu'il fasse jour. Demain matin, dès la première heure, mes serviteurs vous conduiront jusqu'à Chambéry où vous prendrez la diligence pour la France. En ce moment, la cour est à Fontainebleau. En 5 jours, vous y serez. Mettons que vous restiez là-bas 2 ou 3 jours, vous ne serez donc absente que 2 semaines au plus. Et quelle joie, quel triomphe pour vous, si, comme j'en suis convaincu, vous revenez avec la grâce de Mandrin. « Ah, maintenant, je suis sûr de l'obtenir !» s'écria Nicole, toute vibrante d'amour et d'espérance. Tout à coup, Sa jolie figure se voila de tristesse.
« Que va dire mon mari ? » fit-elle, « lorsqu'il ne va plus me trouver ici.
Vous allez d'abord lui écrire une lettre, telle que votre cœur saura vous la dicter. Et puis, ne serai-je pas là pour lui expliquer le motif de votre départ ? Et j'y compte bien pour le lui faire comprendre. »
« Monsieur de Voltaire, vous êtes encore un plus grand homme que je ne le croyais.
Et maintenant, un dernier avis. Vous venez de faire preuve d'un beau courage.
Oh, je sens maintenant que pour sauver Mandrin, j'irai jusqu'au bout du monde.
Je crois, ma chère enfant, que vous n'aurez pas besoin d'entreprendre un si long voyage, » souriait paternellement Voltaire. Mais en attendant, il faut ménager vos forces en vue de celui que vous avez à accomplir. Vous vous devez toutes, en effet, à votre noble mission. Vous allez donc vous coucher bien tranquillement et dormir de même. Demain, Marton, qui est la moins stupide de mes servantes, vous réveillera vers les 5 heures. Elle vous aidera à revêtir un costume de voyage que vous découvrirez certainement parmi les défroques de feu la marquise. Il manquera peut-être d'élégance et sera certainement indigne de votre grâce et de votre beauté. Mais peu importe, puisque pour réussir, vous êtes décidé à tous les sacrifices. À tous. Je vous ferai remettre en même temps une bourse bien garnie.
Oh, monsieur, je ne puis...
Dont votre mari me restituera le contenu. Alors, j'accepte. Reposez donc en paix, ma chère petite, et permettez à votre vieil ami de déposer sur votre front si pur un baiser de vieux papa. » Et Voltaire s'en fut en se frottant les mains et en murmurant « Ce serait vraiment magnifique si, grâce à moi, Mandrin devenait une des grandes lumières de la France. » Quant à Nicole, après avoir quitté, non sans mélancolie, sa robe de mariée, elle se glissa entre les draps de toile fine qui fleuraient bon la lavande, et, bientôt brisée d'émotion, mais réconfortée par la décision que Voltaire avait su si habilement lui inspirer, elle s'endormait d'un profond sommeil.